France Inter. Les admirations littéraires de
Félix Moati. Ce soir, je vais vous lire un roman français majeur du XXe siècle, écrit par Marguerite Duras, publié en 1964, qui est Le ravissement de l'Olvestein. J'ai une émotion particulière à lire ce livre parce que je ne le connaissais pas. Quand on m'a proposé de faire les admirations littéraires, j'ai tout de suite pensé à certains textes et j'avais envie intuitivement de lire Marguerite Duras, que je n'avais jamais lue. Je savais que c'était l'écrivaine préférée de ma compagne. Et ma compagne m'a donc dit de lire Le ravissement de l'Olvestein. C'est un roman majeur et que je suis ravi, c'est le cas de le dire, d'avoir découvert récemment. C'est en passe de devenir, je pense, l'un de mes romans préférés. C'est absolument splendide. Ce roman m'a bouleversé en tout point, autant dans le fond que dans la forme, puisque c'est un roman très stylisé, comme vous le verrez. Surtout, j'ai eu l'impression... C'est un roman très particulier dans la manière dont il est construit. Le narrateur, on le verra, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Hold, qui est l'amant de Tatiana Karl. Tatiana Karl étant la meilleure amie de l'Olvestein. Et Jacques Hold est amoureux de l'Olvestein. Et il ne connaît rien d'elle. Sa seule manière de la connaître, c'est de l'aimer, une connaissance par l'amour. Donc voilà, je vous propose qu'on commence la lecture.
Quand avez-vous imaginé ou rencontré ou vu pour la première fois ce personnage de l'Olvestein?
Je l'ai vu dans un bal de Noël, dans un asile psychiatrique des environs de Paris. Et après, j'ai demandé à la revoir, et je l'ai revue, une fois, très longtemps.
Comment était-elle au cours de ce bal?
Comme un automate. Elle m'avait frappé parce qu'elle était belle d'une part et intacte physiquement. D'habitude, les malades sont très marqués, elle ne l'était pas du tout.
Quel âge avait-elle?
30 ans. Mais elle paraissait très jeune.
Alors, nous allons commencer, ça paraît tautologique, mais par le début. Et allons-y. L'Olvestein est né ici, à Estala, et elle y a vécu une grande partie de sa jeunesse. Son père était professeur à l'université. Elle a un frère plus âgé qu'elle de 9 ans. Je ne l'ai jamais vu. On dit qu'il vit à Paris. Ses parents sont morts. Je n'ai rien entendu dire sur l'enfance de l'Olvestein qui m'ait frappé, même par Tatiana Karl, sa meilleure amie durant leurs années de collège. Elles dansaient toutes les deux, le jeudi, dans le préau vide. Elles ne voulaient pas sortir en rang avec les autres. Elles préféraient rester au collège. Elles, on les laissait faire, dit Tatiana. Elles étaient charmantes. Elles savaient mieux que les autres demander cette faveur. On la leur accordait. On danse, Tatiana? Une radio dans un immeuble voisin jouait des danses démodées, une émission souvenir dont elles se contentaient. Les surveillantes envolées, seules dans le grand préau où ce jour-là, entre les danses, on entendait le bruit des rues. Allez, Tatiana, allez, viens. On danse, Tatiana, viens. C'est ce que je sais. Cela aussi, LOL a rencontré Michael Richardson à 19 ans pendant des vacances scolaires. Un matin, au tennis, il avait 25 ans. Il était le fils unique de grands propriétaires terriens des environs de Tea Beach. Il ne faisait rien. Les parents consentirent au mariage. LOL devait être fiancé depuis 6 mois. Le mariage devait avoir lieu à l'automne. LOL venait de quitter définitivement le collège. Elle était en vacances à Tea Beach lorsque le grand bal de la saison eut lieu au casino municipal. Tatiana ne croit pas au rôle prépondérant de ce fameux bal de Tea Beach dans la maladie de l'Olvestein. Tatiana Karl, elle, fait remonter plus avant même que leur amitié, les origines de cette maladie. Elles étaient là, en l'Olvestein, couvées, mais retenues des chlores par la grande affection qu'il avait toujours entourée dans sa famille, et puis au collège ensuite. Au collège, dit-elle, et elle n'était pas la seule à le penser, il manquait déjà quelque chose à LOL pour être, elle dit, là. Elle donnait l'impression d'endurer dans un ennui tranquille, une personne qu'elle se devait de paraître, mais dont elle perdait la mémoire à la moindre occasion. Gloire de douceur, mais aussi d'indifférence, découvrait-on très vite. Jamais elle n'avait paru souffrir ou être peinée, jamais on ne lui avait vu une larme de jeune fille. Tatiana dit encore que l'Olvestein était jolie, qu'au collège on se la disputait, bien qu'elle vous fuit dans les mains comme l'eau, parce que le peu que vous reteniez d'elle valait la peine de l'effort. Lol était drôle, moqueuse, impénitente et très fine, bien qu'une part d'elle-même eût été toujours en aller loin de vous et de l'instant. Où ? Dans le rêve adolescent ? Non, répond Tatiana, non. On aurait dit dans rien encore, justement, rien. Était-ce le cœur qui n'était pas là ? Tatiana aurait tendance à croire que c'était peut-être en effet le cœur de Lolvestein, qui n'était pas, elle dit, là. Il allait venir sans doute, mais elle, elle ne l'avait pas connu. Oui, il semblait que c'était cette région du sentiment qui, chez Lol, n'était pas pareille. Lorsque le bruit avait couru des fiançailles de Lolvestein, Tatiana, elle, n'avait cru qu'à moitié à cette nouvelle. Qui Lol aurait-elle bien pu découvrir qui aurait retenu son attention entière ? Quand elle connut Michael Richardson et qu'elle fut témoin de la folle passion que Lol lui portait, elle en fut ébranlée, mais il lui resta néanmoins encore un doute. Lol ne faisait-elle pas une fin de son cœur inachevé ? Je lui ai demandé si la crise de Lol, plus tard, ne lui avait pas apporté la preuve qu'elle se trompait. Elle m'a répété que non, qu'elle, elle croyait que cette crise et Lol ne faisaient qu'un, depuis toujours. Alors voilà, ça c'est les deux, trois premières pages de ce fabuleux roman où nous est présenté Lolvestein avec des informations biographiques vraiment très précises. Elle est née donc à Estala, une ville mystérieuse et inventée par Marguerite Duras. Elle y a vécu une grande partie de sa jeunesse. On sait que son père était professeur à l'université, qu'elle a un frère de 9 ans de plus et que ses parents sont morts. Voilà, on n'en saura pas plus. C'est une des informations assez lapidaires que nous propose ici le narrateur. Je rappelle que c'est Jacques Hold. Et Jacques Hold nous dit bien qu'il sait très peu de choses de Lolvestein. Ce qu'il sait, ce sont des informations glanées à Tatiana Karl, à la meilleure amie de collège donc de Lolvestein, mais il sait des choses parcellaires. C'est des informations vraiment fragmentées. Et c'est d'ailleurs ce qui va être fascinant dans ce roman, c'est que Jacques Hold va faire le portrait de Lolvestein, mais un portrait énigmatique, en puzzle. Il y a ça qui me semble important, et puis il y a aussi cette crise. Quelle est cette crise dont parle Jacques Hold ? Qui va toucher Lolvestein. Voilà, ça nous tient en haleine. Donc là, je suis quelques pages plus loin, et je vous propose de continuer. Ça s'ouvre par une phrase dite par Michael Richardson, le fiancé de Lolvestein. Elles étaient ce matin à la plage, dit le fiancé de Lol, Michael Richardson. Il s'était arrêté, il avait regardé les nouvelles venues, puis il avait entraîné Lol vers le bar et les plantes vertes du fond de la salle. Elles avaient traversé la piste et s'étaient dirigées dans cette même direction. Lol, frappé d'immobilité, avait regardé s'avancer, comme lui, cette grâce abandonnée, ployante, d'oiseau mort. Elle était maigre. Elle devait l'avoir toujours été. Elle avait vêtu cette maigreur, se rappelait clairement Tatiana, d'une robe noire à double fourreau, de tulle également noire, très décolletée. Elle se voulait ainsi faite et vêtue, et elle l'était à son souhait, irrévocablement. L'ossature admirable de son corps et de son visage se devinait. Telle qu'elle apparaissait, telle, désormais, elle mourrait, avec son corps désiré. Qui était-elle ? On le sut plus tard. Anne-Marie Streeter. Était-elle belle ? Quel était son âge ? Qu'avait-elle connu, elle que les autres avaient ignorée ? Par quelle voie mystérieuse était-elle parvenue à ce qui se présentait comme un pessimisme gai, éclatant, une souriante indolence de la légèreté d'une nuance, d'une cendre ? Une audace pénétrée d'elle-même, semblait-il, seule, la faisait tenir debout. Mais comme celle-ci était gracieuse, de même façon qu'elle, leur marche de prairie à toutes les deux les menait de pair, où qu'elles aillent. Où ? Rien ne pouvait plus arriver à cette femme, pensa Tatiana. Plus rien, rien. Que sa fin, pensait-elle. Là, je saute quelques lignes pour continuer le passage. S'était-il reconnu lorsqu'elle était passée près de lui ? Lorsque Michael Richardson se tourna vers Lol et qu'il l'invita à danser pour la dernière fois de leur vie, Tatiana Karl l'avait trouvée pâlie et sous le coup d'une préoccupation subite si envahissante qu'elle sut qu'il avait bien regardé, lui aussi, la femme qui venait d'entrer. C'est évidemment la scène originelle du roman. Ce qui va revenir en boucle dans l'esprit, dans la psyché de Lolvestein jusqu'à pendant tout le roman, c'est le ravissement du titre, à savoir L'Olvestein qui soudainement devient spectatrice du fait que Michael Richardson, son futur fiancé, tombe éperdument amoureux de Anne-Marie Streeter. Et elle n'y peut rien. C'est un spectacle face auquel elle est absolument impuissante et qui va la ravir au sens de la déposséder d'elle-même. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, L'Olvestein va devenir comme spectatrice de sa propre existence, comme si elle contemplait sa mélancolie et comme si elle contemplait son existence au lieu même de la vivre. Et c'est donc un événement absolument fondateur dans son existence, à savoir cette dépossession d'elle-même lorsqu'elle assiste à véritablement au moment où Michael Richardson tombe littéralement amoureux de Anne-Marie Streeter. Je trouvais fondamental de lire cet extrait et vous verrez, si vous lisez le bouquin, que à quel point cette scène inaugurale revient hanter L'Olvestein pendant tout le roman.
Pour elle, il avait tout quitté. En une nuit.
La nuit du bal ?
Oui. Michael Richardson était fiancé à une jeune fille de Estala, Lola Valérie Stein.
Le mariage devait avoir lieu à l'automne. Puis il y a eu ce bal.
Elle était arrivée tard à ce bal. Au milieu de la nuit. Habillée de noir. Que d'amour ce bal. Que de désir.
Chanson. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps de de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparu. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout.
Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ce bal ? Le bal du livre, pas le vôtre.
Au cours de ce bal, le fiancé de Lol est tombé amoureux d'une femme. Et ça a été immédiat entre Michael Richardson et cette femme.
Anne-Marie Streeter.
Anne-Marie Streeter. Et Lol a assisté à cet amour naissant, jusqu'à se perdre de vue elle-même. Et c'était si merveilleux, cette éviction, cet anéantissement de Lol. C'est admirable de pouvoir voir son propre amour s'éprendre d'une autre.
Aujourd'hui, mes admirations littéraires se portent sur Le ravissement de l'Olvestein, de Marguerite Duras, publié en 1964. C'est une lecture toute neuve chez moi, c'est un roman que je viens de découvrir, et c'est d'autant plus perturbant que le narrateur, c'est Jacques Hold, qui essaye de faire le portrait d'une femme qu'il aime, et je m'identifie donc parfaitement à ce narrateur, puisque moi-même, je suis dans la position de lire le bouquin préféré de la femme que j'aime, donc c'est assez vertigineux. Là, je vous propose qu'on lise la suite de ce roman. On est encore dans le bal. Je vous rappelle que l'Olvestein a assisté médusée à la dépossession de sa vie. Elle a assisté au fait que Michael Richardson tombe follement amoureux d'Anne-Marie Strater. Et là, je vous propose qu'on continue. Ils avaient dansé, dansé encore. Lui, les yeux baissés sur l'endroit nu de son épaule. Elle, plus petite, ne regardait que le lointain du bal. Ils ne s'étaient pas parlé. La première danse terminée, Michael Richardson s'était rapproché de Lol comme il avait toujours fait jusque-là. Il y eut dans ses yeux l'imploration d'une aide, d'un acquiescement. Lol lui avait souri. Puis, à la fin de la danse qui avait suivi, il n'était pas allé retrouver Lol. Anne-Marie Strater et Michael Richardson ne s'étaient plus quittés. La nuit avançant, il paraissait que les chances qu'aurait eu Lol de souffrir s'étaient encore raréfiées, que la souffrance n'avait pas trouvé en elle où se glisser, qu'elle avait oublié la vieille algèbre des peines d'amour. Aux toutes premières clartés de l'aube, la nuit finie, Tatiana avait vu comme ils avaient vieilli. Bien que Michael Richardson fût plus jeune que cette femme, ils l'avaient rejointe et ensemble, avec Lol, tous les trois, ils avaient pris de l'âge à foison, des centaines d'années de cet âge, dans les fous, endormis. Vers cette même heure, tout en dansant, ils se parlèrent quelques mots. Pendant les pauses, ils continuèrent à se taire complètement, debout l'un près de l'autre, à distance de tous, toujours la même. Exception faite de leurs mains jointes pendant la danse, ils ne s'étaient pas plus rapprochés que la première fois, lorsqu'ils s'étaient regardés. Lol resta toujours là où l'événement l'avait trouvé, lorsque Anne-Marie Strater était entrée, derrière les plantes vertes du bar. Tatiana, sa meilleure amie, toujours aussi, caressait sa main posée sur une petite table sous les fleurs. Oui, c'était Tatiana qui avait eu pour elle ce geste d'amitié tout au long de la nuit. Avec l'aurore, Michael Richardson avait cherché quelqu'un des yeux vers le fond de la salle. Il n'avait pas découvert Lol. Il y avait longtemps déjà que la fille de Anne-Marie Strater avait fui. Sa mère n'avait remarqué ni son départ, ni son absence, semblait-il. Sans doute Lol, comme Tatiana, comme eux, n'avait pas encore pris garde à cet autre aspect des choses. Leur fin avec le jour. Jacques Hold, le narrateur du roman, nous dépeint cette scène emblématique du roman, à savoir le moment où donc l'Olvestein assiste à la danse charnelle et amoureuse de Michael Richardson avec Anne-Marie Strater. Et il me semble que cette phrase est devenue mérite d'être réécoutée, réentendue, parce que je la trouve d'une beauté inouïe. La nuit avançant, il paraissait que les chances qu'aurait eu Lol de souffrir s'étaient encore raréfiées, que la souffrance n'avait pas trouvé en elle où se glisser, qu'elle avait oublié la vieille algèbre des peines d'amour. Alors ça, c'est-à-dire que c'est très étrange, ça veut dire que ce que décrit Jacques Hold, ce n'est pas une réaction de jalousie ou une réaction de chagrin de la part de l'Olvestein, c'est qu'elle assiste à cette scène, à cette danse entre Michael Richardson et Anne-Marie Strater, comme presque morte de l'intérieur, comme si elle ne savait pas réagir, elle était complètement dans une impuissance affective, et elle en revient à ne presque plus rien ressentir. Elle est, au sens propre, ravie, c'est-à-dire dépossédée d'elle-même, complètement à côté d'elle-même et de son désir. Je trouve cette description absolument magnifique, notamment qu'elle avait oublié la vieille algèbre des peines d'amour, comme si... Et c'est aussi, il me semble, presque un manifeste littéraire dans cette phrase, puisque la vieille algèbre des peines d'amour, c'est peut-être celle des anciens romans, puisque je rappelle que Marguerite Duras fait partie d'un nouveau courant littéraire de l'époque, qui s'appelle le nouveau roman. Donc c'est peut-être une manière d'évoquer ce nouveau courant littéraire, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve cette phrase absolument splendide. Alors là, on est plus loin. On est, je rappelle, dans Le ravissement de Lol Weinstein de Marguerite Duras, publié en 1964. Je rappelle que Lol a ce traumatisme originel qui est son ravissement, à savoir l'homme qu'elle aimait, Michael Richardson, est tombé amoureux éperdument de Anne-Marie Streeter lors d'un bal. Et je vous propose qu'on découvre la suite, toujours narrée par Jacques Hold, l'homme qu'il aime. Lol quitta Estalla, sa ville natale, pendant 10 ans. Elle habita Uxbridge. Elle eut 3 enfants dans les années qui suivirent son mariage. Pendant 10 ans, on le croit autour d'elle, elle fut fidèle à Jean Bedford. Que ce mot ait eu un contenu quelconque pour elle, ou non, on ne l'a sans doute jamais su. Il ne fut jamais question entre eux, jamais, ni du passé de Lol, ni de la fameuse nuit de Tea Beach. Même après sa guérison, elle ne s'inquiéta jamais de savoir ce qu'il était advenu des gens qu'elle avait connue avant son mariage. La mort de sa mère, elle avait désiré la revoir le moins possible après son mariage, la laissa sans une larme. Mais cette indifférence de Lol ne fut jamais mise en question autour d'elle. Elle était devenue ainsi depuis qu'elle avait tant souffert, disait-on. Elle, si tendre autrefois, on disait cela comme tout le reste, sur son passé devenu de fer blanc, elle était naturellement devenue impitoyable et même un peu injuste, depuis son histoire avec Michael Richardson. On lui trouva des excuses, surtout lorsque sa mère mourut. Elle paraissait confiante dans le déroulement futur de sa vie, ne vouloir guère changer. En compagnie de son mari, on la disait à l'aise, et même heureuse. Parfois, elle le suivait dans ses déplacements d'affaires. Elle assistait à ses concerts, l'encourageait à tout ce qu'il aimait faire, à la tromper aussi, disait-on, avec les très jeunes ouvrières de son usine. Jean Bedford disait aimer sa femme, telle qu'elle était, qu'elle avait toujours été, avant et depuis son mariage. Il disait qu'elle lui plaisait toujours, qu'il ne le croyait pas l'avoir modifiée, mais l'avoir bien choisie. Il aimait cette femme-là, Lola Valérie, cette calme présence à ses côtés, cette dormeuse debout, cet effacement continuel qui le faisait aller et venir entre l'oubli et les retrouvailles de sa blondeur, de ce corps de soie que le réveil jamais ne changeait, de cette virtualité constante et silencieuse qu'il nommait sa douceur, la douceur de sa femme. Alors là, nous sommes des années après ce bal, et Jacques Hold, en enquêteur minutieux et qui fait comme il peut avec des informations parcellaires et fragmentées, nous raconte que Lol Weinstein n'a presque rien ressenti à la mort de sa mère. Et on explique cette apathie du ressenti par cette scène inaugurale, celle du bal, qui l'aurait vidé même de son propre chagrin, qui l'aurait empêché dans ses années à venir de ressentir quoi que ce soit, quelque émotion que ce fût. Et donc on a une Lol absolument ravie, et on découvre aussi qu'elle est donc mariée à ce Jean Bedford, qui est persuadé de la fidélité et de la loyauté de sa femme, ce qui, on va le voir très prochainement, va lui jouer des tours.
This is why, when you tell me that you love me, something you said, oh, 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these 3 words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, whether I'm scared, it's you. shore. I want to forever stay together where we lay, and for you to know you're always mine. You don't need no words to know just how much I love you so. Wise man said long ago,
drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie et duquel on ne peut absolument pas s'extraire? On n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs.
Alors là, je suis en train de vous lire Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras, publié en 1964. Le narrateur, c'est Jacques Hold. Il est fou amoureux de l'Olvestein et il va nous dire comment il la connaît. Et je trouve ça passionnant, cette modalité de connaissance. Là, ce que je vous apprête à lire, je trouve ça splendide. Voilà, donc j'aimerais que vous écoutiez particulièrement. Je connais l'Olvestein de la seule façon que je puisse. D'amour. C'est en raison de cette connaissance que je suis arrivé à croire ceci. Dans les multiples aspects du bal de Tibitch, c'est la fin qui retient Lol. C'est l'instant précis de sa fin, quand l'aurore arrive avec une brutalité inouïe et la sépare du couple que formaient Michael Richardson et Anne-Marie Streeter. Pour toujours, toujours, Lol progresse chaque jour dans la reconstitution de cet instant. Elle arrive même à capter un peu de sa foudroyante rapidité, à l'étaler, à en grillager les secondes dans une immobilité d'une extrême fragilité, mais qui est pour elle d'une grâce infinie. Elle se promène encore. Elle voit de plus en plus précisément, clairement ce qu'elle veut voir. Ce qu'elle rebâtit, c'est la fin du monde. Elle se voit, et c'est là sa pensée véritable, à la même place, dans cette fin, toujours, au centre d'une triangulation dont l'aurore et eux deux sont les termes éternels. Elle vient d'apercevoir cette aurore alors qu'eux ne l'ont pas encore remarqué. Elle, c'est, eux, pas encore. Elle est impuissante à les empêcher de savoir. Et cela recommence. À cet instant précis, une chose, mais laquelle aurait dû être tentée qui ne l'a pas été. À cet instant précis, Lol se tient, déchirée, sans voix pour appeler à l'aide, sans argument, sans la preuve de l'inimportance du jour en face de cette nuit, arrachée et portée de l'aurore à leur couple, dans un affolement régulier et vain de tout son être. Elle n'est pas Dieu, elle n'est personne. Alors ce qui est magnifique dans ce passage, je trouve, c'est déjà cet aveu du narrateur, de Jacques Hold, qui dit que qu'il ne connaît l'Olvestein que d'une seule façon, à savoir par l'amour, et que l'amour soit une modalité de connaissance, je trouve ça absolument splendide. Et cette modalité de connaissance nécessairement passe par quelque chose qui a une structure de fiction. C'est-à-dire que le portrait qu'il dessine de la femme qu'il aime, à savoir l'Olvestein, est un portrait inventé, un portrait d'écrivain, quelque part, puisqu'il ça a une structure de fiction, véritablement. Il élabore une vérité, il élabore un portrait à partir de sa connaissance amoureuse, à partir d'un sentiment. Je trouve ça splendide. Je trouve que c'est une très belle définition de ce qu'est le sentiment amoureux. C'est d'ailleurs ce que dit Alain Badiou quand il dit que le sentiment amoureux, c'est une construction de vérité. Voilà, je trouve ça très beau. Et par ailleurs, il y a autre chose, un fait intéressant, je trouve, là-dedans, dans cette scène, c'est que malgré le fait que l'Olvestein reste complètement spectatrice de cette scène inaugurale, du moment où Michael Richardson danse avec Anne-Marie Streeter, il y a quand même ce truc qui dit, enfin, le narrateur dit quand même que il s'agit d'une triangulation dont l'aurore et eux deux sont les termes éternels, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ce trio. Elle est spectatrice, mais elle en fait partie. Et je trouve ça, voilà, très beau. Elle est à la fois complètement en dehors de sa propre vie et en même temps au centre de toutes les attentions, puisque quand Michael Richardson et Anne-Marie Streiter commencent à danser, tous les regards se tournent vers Löwenstein. Et je tiens à signaler, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans ce que vous entendez de la lecture, mais je trouve que c'est un roman très imagé, qui sent très fort le cinéma. Alors ça, c'est un tout petit extrait que je vais lire, parce que c'est assez drôle. Tout à l'heure, je parlais de la conviction de Jean Bedford, qui est le mari de Löwenstein, la conviction qu'il a de la loyauté de sa femme. Et Jacques Hold le dit avec beaucoup plus d'humour que moi, donc je tiens à vous lire ce petit passage qui fait quelques lignes. L'amour que Löl avait éprouvé pour Michael Richardson était pour son mari la garantie la plus sûre de la fidélité de sa femme. Elle ne pouvait pas retrouver une deuxième fois un homme fait sur les mesures de celui de Tibitch. Ou alors, il fallait qu'elle l'inventât. Or, elle n'inventait rien, croyait Jean Bedford. Ce court passage le dit admirablement bien. L'aveuglement de Jean Bedford sur la loyauté de sa femme, parce qu'il est persuadé que, étant donné que Löwenstein a tant souffert pour Michael Richardson, elle est presque anesthésiée, elle ne peut plus éprouver quoi que ce soit. Ce qui le rassure, ce qui le console. Néanmoins, elle s'apprête à tomber amoureuse de Jacques Hold. Un dernier passage. Encore une fois, dans cette tentative de Jacques Hold de raconter qui est Löwenstein, de rassembler les puzzles de son identité, il a interrogé Tatiana. Tatiana, je rappelle que c'est la meilleure amie de Löwenstein depuis le collège. Amitié qui se transforme plus tard un peu en rivalité. Donc, il glane des informations auprès de Tatiana. Voilà ce que Tatiana en dit. Tatiana, elle, ne croyait pas à la seule vertu de ce bal dans la folie de Löwenstein. Elle la faisait remonter plus avant dans sa vie, plus avant dans sa jeunesse. Elle la voyait ailleurs. Au collège, dit-elle, il manquait quelque chose à Löl. Déjà, elle était étrangement incomplète. Elle avait vécu sa jeunesse comme dans une sollicitation de ce qu'elle serait, mais qu'elle n'arrivait pas à devenir. Au collège, elle était une merveille de douceur et d'indifférence. Elle changeait d'amis. Elle ne luttait jamais contre l'ennui, jamais une larme de jeune fille. Lorsque le bruit avait couru de ses fiançailles avec Michael Richardson, Tatiana, elle, n'avait cru qu'à moitié à cette nouvelle. Qui aurait pu trouver Löl ? Qui aurait retenu son attention entière ? Ou du moins une part suffisante de celle-ci pour la faire s'engager dans le mariage ? Qui aurait conquis son cœur inachevé. Tatiana croit-elle encore s'être trompée ? Il me semble que Tatiana m'a rapporté aussi des propos, beaucoup, des bruits aussi qui ont couru à Estala au moment du mariage de Löwenstein. Elle aurait déjà été enceinte de sa première fille ? Je me souviens mal. Ils font une rumeur au loin, en ce moment. Je ne les distingue plus des récits de Tatiana. En ce moment, moi seul de tous ces faussaires, je sais. Je ne sais rien. Ce fut là ma première découverte à son propos. Ne rien savoir de Löl, était-elle à connaître déjà. On pouvait, me parut-il, en savoir moins encore, de moins en moins, sur Löwenstein. Donc là, il a glané des informations auprès de Tatiana, la meilleure amie de Löwenstein, qui, elle, suppose que son malheur, sa folie, dit-elle, ne remonte n'est pas imputable exclusivement à cette scène du bal, mais que c'est une douleur un peu plus antique, une douleur qui viendrait de l'enfance, peut-être. Mais là-dessus, Jacques Hold reste très énigmatique, puisque, comme il le confesse lui-même quelques lignes plus loin, de Löwenstein, il ne sait rien. Il ne sait rien, mais il l'aime. Et il élabore quelque chose qui ressemble à une vérité sur Löwenstein, sans rien savoir d'elle. Je trouve que c'est une grande déclaration d'amour et que c'est absolument splendide. Cette émission a été préparée par Perrine Malinge. À la prise de son, c'est Gaspard Guy Bourget. Et elle a été réalisée par Maria Pasquet. Et à bientôt.